bienvenue dans Rared Free Europe, le podcast qui analyse le rôle du Portugal et de la CIA lors de la guerre froide. Présenté par Antoine Thirion, il vous propose de plonger, en 5 épisodes, au cœur des années 50 et 60 pour tenter de comprendre le rôle joué par ces différents acteurs. Hypocrisie, ingérence politique et rôle des médias, rien n'y échappera. Épisode 4. Prague, 1968. La démocratie sans l'Occident.
Co byste vzkázal domu?
Člověk vždy po každém úspěchu nějak zatouží po přátelích doma. S nimiž by rád sdílel dojmy a radost z úspěchu české muziky.
Slyšel jsem z různých stran, že jste dostal pozvání z Prahy. Je to pravda? A proč nejedete?
Fermenté depuis des années par les intellectuels exilés et les radios internationales, des revendications de changement gagnent les étudiants tchécoslovaques à la fin de l'été 67. De septembre de la même année au mois de janvier suivant, de vives batailles politiques internes secouent réformistes et conservateurs. Pendant plusieurs mois, la population en est tenue à l'écart et ne parvient à s'informer que par les radios étrangères, Radio Free Europe principalement. Les réformistes, Alexander Dubček en tête, décident de porter le débat sur la place publique pour rallier la population. Ils vont alors massivement mobiliser les médias tchécoslovaques en leur promettant plus de liberté. Le 3 janvier 1968, Alexander Dubček est nommé à la tête de l'État. Le 1er mars, l'hebdomadaire Literární noviny, interdit depuis 1927, paraît à nouveau. La dynamique du printemps de Prague est ainsi inséparable de la libération des médias, qui deviennent des plateformes de discussion et de propositions. De nombreux débats dans la presse, à la radio et à la télévision témoignent d'une véritable explosion d'une opinion publique longtemps brimée, bâillonnée et orientée. C'est d'ailleurs la révolte populaire est-européenne qui transforme le plus profondément la sphère publique en supprimant théoriquement la censure le 26 juin 1968.
Po ukončení hlasování zjistila, že bylo odevzdáno celkem 288 platných hlasů. Z toho bylo odevzdáno pro navrženého kandidáta armádního generála Ludvíka Svobodu 282 hlasů. Hlasování...
En envahissant la Tchécoslovaquie dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les soviétiques veulent mettre fin à cette révolte populaire. Comme en 1956, ils souhaitent justifier leur intervention par un prétendu appel pour sauver le vrai communisme. Mais le scénario ne sera pas le même qu'en Hongrie. Car au moment même où les chars pénètrent le territoire, Alexander Dubček décide de s'adresser à la nation en condamnant le coup de force. L'intervention soviétique apparaît donc dès le départ comme illégitime. Le représentant du socialisme humain adresse également une recommandation à la population, maintenir le calme et ne pas opposer de résistance physique. Le discours est communiqué à la radio nationale au moment où les avions commencent à survoler le ciel de Prague. À 1h30, les premiers mots résonnent sur les ondes, mais sont immédiatement coupés. Karel Hoffmann, chef des télécommunications et proche des soviétiques, vient de couper les émetteurs. Mais à 1h55, après de multiples solutions de secours, l'ensemble de la population a été mise au courant. Et elle est prête à faire face à l'occupant. Tchèques et Slovaques sont sûrs de leur bon droit. Ils ne comprennent pas pourquoi Moscou veut les empêcher de poursuivre leur chemin. En quelques jours, les murs de Prague sont tagués de messages équivoques. Lénine, réveille-toi, Brejnev est devenu fou. Caché des troupes soviétiques, Dubček affiche son soutien à sa population. Et son désir de prolonger le printemps de Prague.
Vo vzťahoch medzi uplatňovaním politiky jednotlivých komunistických strán navzájom. Preto si treba všímať ďaleko viac. Nie dôsledky, ale príčinnosti určitých javov.
Dès le matin du 21 août, plusieurs centaines de citoyens se massent devant le siège de la radio nationale, prêts à la défendre à main nue s'il le faut. Bien plus qu'un moyen de communication, elle représente le symbole de la résistance nationale. À 7h30, une colonne de chars arrive pour chasser la population. Quand les soldats pénètrent dans le bâtiment, les journalistes s'enferment dans le studio et diffusent l'hymne national. À 9h, ils sont délogés et les programmes s'interrompent. Mais 2 heures plus tard, la radio nationale reprend ses diffusions. Des journalistes se sont installés dans des studios cachés dans la ville. Le même scénario se produit à Pilsen, České Budějovice et Banská Bystrica. Les médias vont se révéler comme le vecteur principal de la cohésion nationale. Les journalistes se retrouvent d'ailleurs dans une position stratégique comme les porte-parole de la résistance qui se développe à travers le pays. Les conditions de réception ont bien changé depuis 1956. Les Tchécoslovaques n'écoutent plus la radio chez eux sur un poste fixe, mais bien dans la rue grâce au poste à transistor qui offre une mobilité totale à l'auditeur. Ce système inédit d'émission-réception fait la force de la résistance tchécoslovaque, lui offrant une incroyable capacité de réaction. Pendant une semaine, la population va résister à l'envahisseur sans jamais s'y opposer physiquement. Les troupes de l'armée rouge sont déboussolées, elles ne savent pas comment réagir. Les têtes et cœurs tchécoslovaques semblent même plus forts que les canons soviétiques. Un sentiment de jamais vu qui inspire à Václav Havel.
Au cours de cette semaine-là, il est apparu clairement qu'une force armée est impuissante face à un adversaire différent de celui qu'elle est entraînée à combattre. Cela a prouvé également qu'il est extrêmement difficile de dominer un pays qui ne se défend pas militairement, mais en tournant simplement le dos à l'agresseur.
Depuis le début du printemps de Prague, la population a mis sa confiance dans Dubček. Quand elle apprend qu'il a été emmené de force à Moscou, l'espoir et l'inquiétude grandissent. Le 27 août, la délégation est de retour. À 14h40, un communiqué s'efforce de présenter sous un beau jour les accords de Moscou. À 17h40, c'est au tour de Dubček de s'exprimer. Les Tchécoslovaques sont confiants, mais lorsqu'il prend la parole, tout le monde comprend qu'il est physiquement et psychologiquement épuisé. Son allocution est entrecoupée de silence et de sanglots. Il est brisé, alors que la population à laquelle il s'adresse ne l'est pas encore.
Nemohli sa zúčastňovať spolu s nimi na práci našej strany. Celkom otvorene chcem tiež povedať.
Il confirme les premières informations, c'est la voie de la normalisation qui a été choisie, c'en est fini du printemps de Prague. Quelques mois plus tard, Dubček est démissionné. Les médias n'ont désormais plus la légitimité nécessaire pour continuer la lutte, puisque le pouvoir qui leur avait donné du poids vient de se soumettre à l'occupant. Le 1er avril 1969, une loi très sévère sur la censure est promulguée. C'est la mort définitive du printemps de Prague, il avait commencé avec la fin de la censure, il se termine avec son rétablissement. Dans les mois qui suivent, le pays assiste à une véritable épuration systémique, 2600 des 4000 journalistes professionnels sont radiés ou exclus.
Mám u mikrofonu pana Bohumila Sekeru, pivovarského technika z Prahy, který odešel z Československa 23. srpna směrem do Rakouska. Byl v Praze při okupaci, přitom když sovětské tanky...
Cet extrait de Radio Free Europe, diffusé dans les jours qui suivent l'écrasement du printemps de Prague, est représentatif du cas très spécial qu'incarne la résistance tchécoslovaque de 1968 pour RFE. Pour justifier sa mission, la radio américaine présente en effet régulièrement les soulèvements populaires au sein du Rideau de Fer comme des partitions politiques dans lesquelles elle a joué un rôle. Certes, les populations est-européennes tendaient l'oreille vers l'ouest, mais elles ne restent pas fermées aux médias de l'Est pour autant. Au contraire, les processus de réception de ces sociétés combinaient même régulièrement des périodes d'attraction vers l'extérieur et d'intérêt pour la vie politique intérieure du pays. En ce sens, le printemps de Prague est l'exemple parfait de ce désintérêt vis-à-vis de l'Occident. Tous les comptes rendus et relevés d'auditoires le prouvent. L'écoute des radios étrangères a connu une chute drastique tout au long du socialisme à visage humain de Dubček. En réalité, si Radio Free Europe a en quelque sorte aidé la Hongrie à se faire massacrer en 1956, elle n'a, contrairement à ce qu'elle avance, pas aidé les Tchécoslovaques à s'ouvrir à la démocratie.